France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Jean nous appelle de Chartres. Bonjour Jean.
Bonjour Monsieur Cohen, bonjour messieurs. Les frondeurs ont pourri le gouvernement de François Hollande. Moi, quand on je rends coup par coup, n'est-il pas normal que la campagne de Benoît Hamon soit perturbée par ceux qui ont été attaqués en permanence pendant 5 ans ? Ces frondeurs, s'ils avaient été logiques, n'auraient-ils pas dû rejoindre la gauche de la gauche, c'est-à-dire Mélenchon ? Vraiment, je comprends pas.
Merci Jean pour cette question. Jérôme Götz, c'est à vous que ça s'adresse.
Comme dit l'autre, je sens que c'est pour moi la question.
Oui, c'est pour vous.
Est-ce que la loi du talion appliquée à la politique est un principe qui peut nous guider ? Je ne crois pas. Alors maintenant, est-ce qu'il faut être attaché à ses convictions ? Ça veut dire quoi, fronder ? Moi, je n'ai pas l'œil dans le rétroviseur du quinquennat. Mais à chaque fois que j'ai pas été amené à soutenir telle ou telle proposition dans le quinquennat, c'était à chaque fois qu'elle s'éloignait des engagements qui avaient été pris devant les électeurs. Oui. Moi, à chaque fois que j'ai pas voté, j'avais comme référence le tract que j'avais distribué en candidat aux législatives sur un certain nombre de propositions.
Mais aujourd'hui, ça vous revient comme un boomerang sur le thème « on n'a pas de leçon de loyauté à recevoir », etc. Enfin...
Oui, mais la différence, c'est qu'il y a la démocratie qui est passée en cours de route. C'est qu'il y a la primaire qui, d'une certaine manière, a opéré cette clarification et qui a dit... Non pas que les frondeurs avaient raison, mais qui avaient besoin de construire cette gauche d'après, qui avaient besoin d'être fidèles à un certain nombre de principes pour la reconstruction de cette gauche. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je veux pas qu'on bascule dans une forme de confusion. Et c'est la raison pour laquelle on a des accords sur un certain nombre de propositions. Je prends juste un exemple. Hier, les retraités manifestaient pour défendre leur pouvoir d'achat. Moi, je veux dire aux retraités et à ceux qui ont le cœur à gauche que faites attention quand Emmanuel Macron il vous propose une taxe sur les retraités avec l'augmentation de la CSG, ce qui va représenter entre 250 et 400 euros par an pour l'ensemble des retraités, il y a une différence entre la droite et la gauche. Moi, je préfère que, d'une certaine manière, on puisse préserver et même soutenir le pouvoir d'achat de l'ensemble des retraités.
Christophe Castaner.
Je crois, Jérôme, que les retraités savent aussi qu'un revenu universel, par exemple, ça devrait être payé par quelqu'un et ne pas prévoir les ressources
de financement. L'engagement est clair. Aucune augmentation de la fiscalité.
Jérôme, je t'écoute avec attention.
Mais oui, mais
on peut tenter,
on peut tenter de
faire ça aussi.
Il y a bien une augmentation de la CSG dans le programme d'Emmanuel.
Bien sûr, avec une baisse de charges corrélative pour faire en sorte que
les retraités payent pas de charges.
Jérôme, pour faire en sorte que les Français qui travaillent aient une augmentation d'un 13e mois chaque année.
Mais les retraités,
je pense que ça va dans le bon sens.
Mais les retraités, une pénalisation.
Les retraités n'auront pas de pénalisation, notamment parce qu'ils bénéficieront de la baisse de la taxe d'habitation, de la suppression de la taxe d'habitation, qui concerne tous les retraités, parce que la plupart ont des revenus inférieurs à 5 000 euros et donc du coup, ça leur fera mieux encore.
Mais si je peux me permettre, Hier, j'ai entendu Jean Arthuis aussi qui disait que la taxe d'habitation serait remplacée par une nouvelle contribution.
Tu parles beaucoup, et si tu parles en plus quand je cause, ça va être un peu compliqué.
On va en débattre.
Je voudrais rebondir sur la question qui a été posée. Je crois que le président de la République, il a aussi une légitimité populaire, celle d'avoir été élu. Et que celles et ceux qui, pendant 5 ans, ont tout fait pour le déstabiliser, François Hollande, en payent un peu le prix aujourd'hui. Et quand j'entendais tout à l'heure, et quand je disais dans Libé ce matin, des proches de Benoît qui veulent l'exclusion de Manuel Valls et qui proposent un système d'épuration, vous voulez que je vous parle des pressions que j'ai subies, moi, du fait du Parti Socialiste, pour ne pas m'engager avec Emmanuel Macron ? Je pense qu'à un moment donné, le parti, à force de vouloir exclure beaucoup de monde, va se retrouver tout seul. Alors, c'est pratique, on est chef, mais on est chef de rien.
Vous êtes pour les exclusions, vous, Jérôme Götz ?
En tous les cas, il y a un moment, il y a un principe de responsabilité. Il y a un constat, d'ailleurs, je crois que ça a été fait. Dès l'instant où on soutient un autre candidat que celui qui est issu de sa famille politique, on se met par soi-même en dehors de son parti. Et je suis sûr que chez En Marche, demain, s'il y a un candidat d'En Marche qui n'a pas été retenu à l'investiture des élections législatives et qui se présente contre un candidat En Marche, eh ben, vous ferez comme tout le monde, vous constaterez que la personne ne respecte pas les règles. Mais puisque... Christophe a parlé de la taxe d'habitation. Moi, je veux que les choses soient perçues par les uns et par les autres. C'est la grande mesure, paraît-il, d'Emmanuel Macron.
Mesures,
en tous les cas, elle est présentée comme telle.
L'égalité sur les retraites, des sujets comme ça sont importants.
C'est assez intéressant de dire, on va supprimer la taxe d'habitation, c'est 10 milliards d'euros de moins qui vont être faits. Donc, je ne sais pas d'ailleurs comment c'est compensé, il y a bien un moment. Et puis, je le redis, hier, j'entendais encore Jean Arthuis, qui a dit sur une autre antenne, dire, bah oui, la taxe d'habitation va être supprimée, mais elle va être remplacée par une nouvelle contribution. Donc c'est facile de faire des campagnes. Bah écoutez, c'est ce qu'il a dit.
C'est facile de
faire une campagne électorale.
C'est faux, il ne cherche pas à semer le trouble en parlant pour d'autres.
Lis
le programme d'Emmanuel Macron.
Moi, j'ai entendu.
Il y aura une suppression intégrale sans constitution d'une nouvelle taxe.
Non, mais tu vois bien, Christophe, donc ça, c'est assez révélateur du problème qu'il y a chez Emmanuel Macron. C'est
que
chacun y trouve ce qu'il veut y trouver.
Chacun son tour.
Chacun y trouve ce qu'il veut y trouver. Et donc, à force de ne vouloir contrarier personne, Emmanuel Macron va finir par décevoir décevoir tout le monde parce que mais les gens de droite, alors, ils trouvent ce qu'ils veulent entendre, ils disent bon, on va faire une autre contribution. C'est comme si moi, dans une campagne électorale, je disais on va supprimer l'impôt sur le revenu sans dire qu'on va créer un impôt sur ce qu'on gagne.
On laisse
tout seul, au fond, on n'écoute personne. Et c'est comme ça que Benoît Hamon est à moins de 10%. Je pense qu'il faut s'écouter, ne pas prêter de parole. Et moi, depuis tout à l'heure, je t'entends attaquer Emmanuel Macron, mais ne pas parler du projet politique de Benoît Hamon. C'est plutôt ça aussi qu'il faudrait faire. Et donc, je pense que ne cherche pas à citer les autres, à utiliser ou instrumentaliser tel propos. Voyons ce qui nous sépare, assumons ce qui nous oppose. Mais là-dessus, ne cherchons pas à instrumentaliser les peurs, parce que ça ressemble à un discours que d'autres ont porté et qui a coûté beaucoup à la démocratie française.
Anne nous appelle de Sèvres. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi, je suis socialiste et très fière de l'être. Je trouve dommage qu'on se batte sur des sujets qui ne sont pas les sujets importants en ce moment. Le sujet important pour moi, c'est la démocratie. On a un gros danger entre Fillon et Le Pen. Et moi, ma question, c'est pourquoi dès à présent, au lieu de montrer une division qui n'a pas forcément lieu d'être, puisque les points communs sont quand même aussi importants, on n'essaie pas de trouver un accord en dialoguant entre nous pour réussir à conserver la gauche au pouvoir.
Dans l'immédiat, vous soutenez qui, sans indiscrétion, Anne? Enfin, si vous voulez le dire. Vous soutenez Benoît Hamon.
Et je voterai Benoît Hamon, et je suis fière d'être socialiste, très fière d'être socialiste.
Ouais.
Je veux que la gauche reste. Je pense qu'Emmanuel Macron a aussi des valeurs de gauche, a beaucoup de valeurs de droite, mais beaucoup de valeurs de gauche aussi, et qu'on peut, en étant forts tous, faire quelque chose qui soit correct et qui soit intéressant pour tout le monde.
Merci Anne. Le danger Front National, Jérôme Gadge, dont parle Anne, on a l'impression, même si Benoît Hamon a corrigé le tir, a consacré une bonne partie de son meeting à Lille avant-hier soir à dénoncer le programme du Front National, mais on a l'impression que les critiques étaient ces derniers jours beaucoup le plus largement concentrées contre Emmanuel Macron.
Qu'on ne s'y trompe pas, notre adversaire principal est et demeure le Front National. Notre adversaire principal est et demeure la droite libérale autoritaire de François Fillon, y compris depuis qu'elle est lestée par une absence patente de morale et de vertu républicaine. Mais dans le débat démocratique, puisqu'on nous voyons bien qu'il y a un certain nombre d'électeurs de gauche qui peuvent être tentés par ce que propose Emmanuel Macron, nous nous adressons à eux en intelligence, on parle à leur cœur et à leur raison sur les propositions de Benoît Hamon, celles que votre auditrice trouve intéressantes pour préparer les transitions auxquelles le pays va être confronté, la transition écologique, la transition démocratique avec une nécessaire nouvelle république, la transition du monde du travail, qui ne dit pas que nous avons peur du travail. Nous, on a peur d'une chose, du travail qui est mal rémunéré, du travail qui est mal considéré. Et c'est la raison pour laquelle, avec le revenu universel d'existence, c'est une mesure de pouvoir d'achat pour 19 millions de salariés. Donc les propositions, elles sont sur la table et elles sont, pour répondre à l'auditrice, en capacité d'organiser le rassemblement de la gauche, avec une position qui est une position médiane, qui peut s'adresser à ceux des électeurs de gauche qui sont tentés par Emmanuel Macron, à ceux des électeurs de gauche qui peuvent voir dans Jean-Luc Mélenchon une radicalité à la mesure de la colère qui existe dans le pays.
Mais il faut pouvoir organiser ce rassemblement. Parce que vous dites qu'on veut s'adresser aux électeurs d'Emmanuel Macron pour leur dire «
ne
vous trompez pas,
et vous êtes les bienvenus à la maison ».
Mais si on regarde les sondages, et pardon, j'ai la faiblesse de les regarder, on a l'impression que les vases communicants, c'est plutôt entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'est là que les transferts se font. En tout cas, qu'ils se sont faits ces derniers jours, Jérôme
Gadge. Écoutez, moi, je ne suis pas un exégète de la lecture des sondages, et on peut les enjamber. Il y a une disponibilité, il y a un besoin de gauche qui s'exprime dans le pays. Encore faut-il qu'il cherche l'outil pour pouvoir incarner ce rassemblement. Et c'est vraiment la position centrale, la position ouverte, la position rassembleuse qui est celle de Benoît Hamon. Maintenant, à chacun de lire les projets et de voir ce que déclarent les uns et les autres. Et franchement, les déclarations, elles veulent dire aussi quelque chose. Et la contradiction des déclarations qui peuvent exister dans les soutiens d'Emmanuel Macron, elle veut dire quelque chose.
Christophe Castaner, porte-parole d'Emmanuel Macron.
Un mot, et je vais tenter de faire court, parce que je pense qu'on peut se faire entendre en étant court et pas forcément en étant long. Je crois que, en même temps, si vous écoutez ce qu'Emmanuel Macron dit dans ses meetings, jamais il n'a attaqué Benoît Hamon. Jamais même il a attaqué Jean-Luc Mélenchon. Il parle de son projet, de la rencontre avec les Français. Et quand je vois au meeting de Lille, ou quand j'entends Martine Aubry évoquer Emmanuel Macron et le faisant siffler en disant « l'homme qui n'aime pas les gens, mais qui aiment l'argent ». La formule, elle est jolie, mais elle est franchement pas à la hauteur du débat démocratique qui est le nôtre aujourd'hui.
Les mélenchonistes ont largement participé à la primaire alors que leur candidat n'y était pas. Benoît Hamon n'est pas le vainqueur du PS, mais celui d'une partie de la gauche, nous dit un auditeur, Christophe, qui nous a écrit par mail.
Je disais tout à l'heure que la primaire, elle participe de ce qui va de toute façon arriver, une recomposition de l'offre politique, et c'est tant mieux. Parce que on a crevé, si j'ose dire, eh bien, de cette valse hésitation, ai-je failli dire sans mauvais jeu de mots. Il y a cette volonté de pouvoir se rassembler autour de propositions qui s'appuient sur des éléments positifs qui existent dans le quinquennat. Moi, je passe pas par-dessus bord tout ce qui s'est passé dans le quinquennat. Je vais même vous faire une confidence. Normalement, on devrait pas être là, Christophe Castaner et moi. Normalement, on devrait faire la campagne de François Hollande si les engagements de 2012, si le quinquennat s'était passé normalement.
Vous l'auriez fait, vous, Jean Gage?
Ah bah, si le quinquennat avait été si fidèle...
Avec un autre quinquennat, oui, d'accord.
Oui, mais,
avec un autre candidat.
Mais non, je veux dire, moi, quand François Hollande a gagné l'élection présidentielle en 2012, ouais, j'avais dans un coin de la tête la perspective et l'objectif que François Hollande soit le candidat en 2017, parce que le projet qui était présenté correspondait à ce qui pouvait rassembler la gauche. On est parti avec une majorité parlementaire large, elle s'est réduite comme peau de chagrin. Et on en a tiré les enseignements et le besoin de gauche s'exprime.
Christophe Castaner.
C'est toute la limite de la primaire. La primaire, c'est un clan qui désigne un chef de clan. La 5e République, c'est la rencontre entre une femme, un homme et le peuple français. Et je pense que la primaire réduit la discussion politique, et on le voit aujourd'hui dans les choix qui sont proposés, qui font que, dans les favoris des sondages, et même si il ne faut pas en faire sa religion constante, ce sont une femme, un homme et Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas sortis par ce prisme-là qui est un prisme réducteur.
Christophe Castaner, Jérôme Gadge, vous restez avec nous dans un instant, on va accueillir Augustin Trapenard et avoir la solution de François Morel.